Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
20 avril 2022, Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. Un nouveau gouvernement a été formé en Côte d'Ivoire quelques heures après la prestation de serment de Thiemoko Mélie Kone comme vice-président. Sénégal, 6 sages-femmes sont poursuivies après la mort d'une femme enceinte dans un hôpital de Louga. Présidentielle française, débat télévisé ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant le second tour dimanche. Les Russes ont intensifié aujourd'hui leurs frappes sur l'est et le sud de l'Ukraine. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Un nouveau gouvernement resserré de 32 membres dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi, dans lequel sont maintenus les principaux ministres, a été formé et annoncé ce mercredi par la présidence de Côte d'Ivoire. Le précédent gouvernement comptait 41 ministres, ministres délégués, secrétaires d'État. Le nouveau ne compte plus que des ministres, des postes ayant été supprimés ou fusionnés. Deux nouvelles personnalités font leur entrée dans la nouvelle équipe de Patrick Hachi, dont Françoise Remarque, patronne de Canal Plus Côte d'Ivoire, nommée à la culture. L'annonce du nouveau gouvernement est intervenue quelques heures après la prestation de serment de Thiemoko Mélie Kone comme vice-président, un poste resté vacant pendant 2 ans. Thiemoko Mélie Kone a prêté serment devant le Conseil constitutionnel en présence du président Alassane Ouattara. Les détails avec Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
Le vice-président ivoirien Thiemoko Mélie Kone a exprimé sa profonde gratitude et son infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée en sa personne. L'ex-gouverneur de la BCAO a assuré et abordé cette fonction avec humilité et détermination.
Consolider la triptyque paix, sécurité, cohésion, socle de tout progrès. Favoriser la création de richesses, source d'emploi en visant la transformation structurelle, notamment l'industrialisation de notre économie. Promouvoir un cadre de vie et d'investissement au niveau de chacune de nos régions. Assurer le développement d'une administration plus performante et plus engagée. Les initiatives de consolidation de notre démocratie, de transformation de notre économie.
Le vice-président a dit se mettre à disposition pour poursuivre aux côtés du président l'initiative de consolidation de la démocratie et de transformation de l'économie ivoirienne. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Mali, l'ONU regrette que les autorités maliennes n'ont toujours pas accordé d'accès à ces enquêteurs à Moura, théâtre d'un massacre présumé de civils. Dans un rapport, l'ONG Human Rights Watch a fait état de l'exécution sommaire de 300 civils par des soldats maliens associés à des combattants étrangers entre le 27 et le 31 mars dans la localité de Moura. Les autorités maliennes affirment pour leur part avoir tué 203 djihadistes. Le Haut Commissariat prend note du fait que selon les autorités maliennes, une enquête a été ouverte par le tribunal militaire de Mopti et les appelle à s'assurer que cette enquête ait lieu rapidement, qu'elle soit approfondie, indépendante et impartiale. Au Sénégal, 6 sages-femmes sont poursuivies après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant vainement attendu une césarienne pendant des heures. Une affaire qui a suscité l'émotion dans le pays. Abdourahmane Dia.
Selon leur avocat, ces sages-femmes sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Maître Abou Abdoudaf précise que 4 d'entre elles ont été écrouées mardi soir dans la ville de Louga et 2 sont en liberté provisoire. Ces 2 dernières étaient, depuis plus de 4 ans, employées comme stagiaires avec une modique rémunération et on leur demande des résultats en matière de qualité des soins dispensés, s'est plaint Maître Daf. Les 6 femmes doivent être jugées le 27 avril devant le tribunal de grande instance de Louga, dans le nord du Sénégal. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a reconnu le 14 avril que la mort d'Astou Sorna, enceinte de 9 mois à l'hôpital public de Louga, aurait pu être évitée avec plus de vigilance. Les circonstances de sa mort, telles que rapportées par les médias sénégalais, ont suscité sur les réseaux sociaux un flot de protestations contre les carences du système de santé public au Sénégal. Le directeur de l'hôpital a aussi été limogé. Par ailleurs, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé a annoncé avoir entamé ce mercredi une grève de 72 heures, notamment en soutien aux sages-femmes poursuivies par la justice.
Les prisons du Togo seront rouvertes au public à partir de vendredi pour les visites aux détenus après 2 ans de fermeture en raison du COVID-19, a annoncé le ministre de la Justice, Pius Kokuvi Agbetome. Les détenus sont privés de droit de visite depuis le 13 avril 2020. Pour de nombreux Togolais, l'interdiction de visite aux détenus était disproportionnée au regard de la situation sanitaire. Rwanda, une fille de Paul Rusesabagina demande au président Paul Kagame de libérer son père. Karine Kaniba, fille adoptive de l'opposant rwandais, a estimé ce mercredi que le sort de son père est entre les mains de Kagame lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Rusesabagina, dont la condamnation à 25 ans de prison pour terrorisme a été confirmée en appel le 4 avril, a été victime il y a quelques semaines en prison d'un accident vasculaire cérébral sur lequel aucun diagnostic fiable n'a été posé. 400 membres civils et militaires de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo ont été tués dans l'exercice de leur mandat de maintien de la paix depuis 1999. Ce bilan comprend à la fois les militaires, les policiers et les civils, ainsi que les experts internationaux, ceux qui ont été assassinés au Kasaï en 2017, a expliqué Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
5 ans après leur premier duel, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent ce soir dans un débat télévisé avant le second tour dimanche. Avec un écart beaucoup plus serré entre les deux rivaux qu'en 2017, le débat peut avoir des conséquences importantes. Il sera arbitré par deux journalistes bien connus, Nathalie Barge.
Il y a 5 ans, le crash en direct de la candidate d'extrême droite avait marqué les esprits, y compris chez ses partisans. Elle a confié sur TF1 avoir tiré les leçons de cet échec. Marine Le Pen a l'expérience maintenant, a estimé le vice-président de son parti, Louis Alliot. Emmanuel Macron, outsider en 2017, qui ne se réclamait ni de droite ni de gauche, doit défendre le bilan d'un quinquennat. Le président sortant, qui n'a participé à aucun débat pendant la campagne, dit prendre très au sérieux le rendez-vous télévisé où il va tenter de convaincre un électorat de gauche méfiant à son égard. Les deux adversaires se sont jusque-là affrontés à distance, se rendant coup pour coup. Marine Le Pen a accusé son adversaire de brutalité et a fustigé la vacuité de son projet. Emmanuel Macron a attaqué sa rivale sur la radicalité de son programme, dissimulé derrière une banalisation de l'extrême droite. Tous deux s'efforcent de séduire les partisans du leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, troisième au premier tour, avec près de 22% des voix. Le candidat malheureux a exhorté ses partisans à ne pas accorder de voix à Le Pen, sans pour autant appeler à voter Macron.
Les Ukrainiens parlent d'intensification, les Russes, d'une nouvelle phase de la guerre. Les combats redoublent d'intensité dans l'est de l'Ukraine, qui reçoit désormais des armes lourdes que les Occidentaux ont longtemps hésité à lui fournir. John Lindon.
Les combats dans le Donbass se sont intensifiés. Kiev fait état de tentatives d'assaut sur plusieurs localités. Après bientôt 2 mois de siège, le port de Mariupol semble proche de tomber. Sa chute permettrait aux Russes de consolider leurs gains territoriaux le long de la mer d'Azov en reliant la région du Donbass en partie contrôlée par les séparatistes pro-russes à la Crimée, annexée par Moscou en 2014. À Mariupol, les autorités ukrainiennes parlent d'un bilan d'au moins 20 000 morts. Un accord a été trouvé mercredi sur un couloir humanitaire pour évacuer les civils. D'après les Nations Unies, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le déclenchement de cette guerre, qui a aussi fait plus de 7 millions de déplacés internes.
Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a confirmé aujourd'hui qu'il allait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Kiev prévue ces prochains jours et qu'il redirait l'engagement de Madrid et l'Union européenne au pays envahi par la Russie. L'annonce de ce déplacement imminent du leader socialiste dans la capitale ukrainienne, dans le sillage d'autres dirigeants européens depuis l'invasion russe, a été faite mardi par le gouvernement qui n'a pas fourni la date exacte pour des raisons de sécurité. Et puis le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, se rapproche d'une extradition aux États-Unis après une décision formelle de la justice britannique. Elle a rendu une ordonnance ordonnance d'extradition et il revient désormais à la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, de l'approuver, ce qui ne semble faire aucun doute. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, à la Minute Éco avec Nathalie Barge.
L'entrepreneur social sénégalais Thion Nyang et l'international togolais Emmanuel Adebayor vont lancer en mai la construction de l'Institut de formation agricole Jeufzone au Togo, indique Nyang sur sa page Facebook. Jeufzone aide les jeunes à lancer leur entreprise agroalimentaire. Le projet a été implémenté au Sénégal au sein d'une plateforme agro-industrielle pour la production et la commercialisation des produits agricoles locaux. L'ONG britannique Tax Justice Network affirme dans un rapport que les entreprises installées en République du Congo ont transféré à l'étranger plus de 860 milliards de francs CFA de bénéfices en 2021, échappant ainsi à la fiscalité congolaise. Ces évasions fiscales ont fait perdre plus de 280 milliards de francs CFA à l'État, selon le rapport. La première édition de la saison culturelle du Cameroun se déroule actuellement à Paris jusqu'au 17 juillet sous le thème de la route des chefferies. Ce programme de développement culturel et touristique vise à valoriser les traditions et le patrimoine camerounais. De nombreux événements et expositions sont prévus, dont une parade des civilisations du Cameroun dans les rues de la capitale française.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. La conférence NIL a arrêté son classement définitif permettant de désigner les quatre clubs qualifiés pour les play-offs à l'issue des deux dernières rencontres dans la Basketball Africa League. Les Congolais du BC Espoir Foucache ont pu sauver l'honneur en décrochant leur première victoire après cinq matchs devant les Sud-Africains de Cape Town Tigers 96-92. Dans l'autre rencontre, pas de miracle pour les Camerounais. FAP s'est incliné 77-63 devant le champion en titre, le Zamalek, qui a fait du sans faute, 5 matchs, 5 victoires. Les Égyptiens finissent ainsi premiers de cette conférence NIL devant les Angolais de Petro de Luanda, deuxième avec 4 victoires en 5 matchs. Cape Town d'Afrique du Sud est troisième avec 2 victoires en 5 matchs. Idem pour FAP du Cameroun, qui boucle la liste des qualifiés de cette conférence. NIL, Cobra Sport du Soudan du Sud et BC Espoir Foucache de la République démocratique du Congo sont donc éliminés. Que retenir de ces quatre qualifiés de la conférence NIL pour les playoffs? Analyse avec Amine El Amri, journaliste sportif joint à Casablanca, au Maroc.
Finalement, pas beaucoup de surprises. On savait que le Zamalek était ultra favori à sa propre succession et dans cette mesure, il a logiquement dominé sa conférence. Derrière, il y a le Petro Luanda, qui était aussi une très bonne équipe déjà lors de la saison 1 de la BAL et qui confirme cette année en se classant en deuxième derrière le Zamalek. Ensuite, il y a les Cape Town Tigers et les forces armées et police du Cameroun qui complètent le tableau. Petite surprise, peut-être pas pour les Cape Town Tigers qui... Ce n'est pas surprenant si on considère le parcours de cette équipe lors des éliminatoires. Petite déception un peu pour Cobra Sport qui n'a vraiment pas démérité, qui a des joueurs talentueux mais à qui il manque beaucoup d'expérience. En revanche, pour l'Espoir Foucache, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, aussi bien défensivement qu'offensivement.
Amine El Amri, journaliste sportif marocain. Pour rappel, dans la conférence Sahara, Rwanda Energy Group, l'US Monastir de la Tunisie, l'AS Salé du Maroc et Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée se sont qualifiés pour les playoffs. Du coup, on connaît les oppositions du premier tour de ces playoffs. En quart de finale, le Zamalek fera face à Slack de la Guinée. Rwanda Energy Group affrontera Force armée et police du Cameroun. À ne pas manquer, le choc entre l'AS Salé du Maroc et Petro de Luanda. Mission compliquée pour les novices sud-africains de Cape Town Tigers devant les Tunisiens de l'US Monastir. Les playoffs auront lieu à Kigali au Rwanda, je le rappelle, du 21 au 28 mai prochain. Ici, en NBA, les playoffs se poursuivent. Phoenix a été surpris à domicile par la Nouvelle-Orléans, vainqueur dans l'Arizona 125-114. Pour le deuxième match de ce premier tour, De son côté, Miami, porté par un excellent Jimmy Butler, a remporté son deuxième match d'affilée face à Atlanta, 115-105. Pour sa part, Memphis s'est rattrapé en infligeant une correction à Minnesota, 124-96, pour égaliser à une victoire partout. Dans cette série, les Timberwolves accueilleront les Grizzlies demain jeudi pour le match numéro 3.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, sera devant les membres du Conseil national de transition demain jeudi pour faire le point sur l'état de mise en œuvre de son plan d'action gouvernemental. Quelles sont les attentes des politiques et analystes au terme de cet échange entre l'exécutif et le législatif? Élément de réponse avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Vendredi 30 juillet 2021, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga était devant les membres du Conseil national de transition pour présenter le plan d'action de son gouvernement. Ce plan, largement adopté 72 heures plus tard, devait, selon le Premier ministre, être la thérapie du grand corps malade qu'est le Mali. 8 mois plus tard, il s'agit de savoir, selon Souleymane Dé, président de la commission loi du CNT, si le Mali se porte mieux.
Il sera question d'une question d'actualité qui vise essentiellement à introduire le débat entre le Premier ministre et son gouvernement avec les membres du Conseil national de transition en vue de porter des réponses aux questions que les uns et les autres se posent sur la poursuite normale de la transition.
Au cours des débats qui vont inlassablement tourner autour de la mise en œuvre du plan, de l'état des réformes institutionnelles et des questions sécuritaires, il est selon Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema, nécessaire que les Maliens qui aspirent à un renouveau politique soient édifiés.
Les sujets doivent tous les sujets doivent être évoqués, tous ceux qui sont dans le plan d'action du gouvernement, des questions relatives aux réformes politiques et institutionnelles. Les Maliens veulent savoir où est-ce que nous en sommes, parce que quand même c'est important. Nos compatriotes veulent une refondation de notre démocratie, une refondation du pays. Il y avait eu des promesses. Où est-ce que nous en sommes? Les gens veulent le savoir. Par rapport à la sécurisation du pays, les gens veulent savoir davantage qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Et par rapport au retour de l'administration dans les zones occupées, les Maliens veulent savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se faire, qu'est-ce qui n'a pas pu se faire. Par rapport aussi au chronogramme, aux élections et tout ce qui va comme réforme allant dans le sens des élections, les Maliens veulent savoir.
Hamidou Togo, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Hogon, estime que les questions autour de la cohésion nationale et de la diplomatie doivent être abordées.
Il y a une France importante de la population qui se sent exclue. Donc, si on veut aller loin, on veut faire mieux pour le pays, il faut qu'il y ait une entente nationale. L'autre aspect aussi important, c'est la sûreté de la vie. C'est vrai, le contexte international n'est pas facile, mais au Mali particulièrement, compte tenu des sanctions de la CEDEAO et de l'IOMOA, le contexte est très difficile. Le contexte national est très, très, très difficile.
À noter que ce plan d'action gouvernemental, qui avait été budgétisé à plus de 2 000 milliards de francs CFA, devait voir son contenu entièrement réalisé au mois de février 2022. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Tchad, un an après sa prise de pouvoir suite à la disparition du président Déby, sur le champ de bataille, le 20 avril 2021, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est adressé hier à la nation. Dans son discours, il se targue d'avoir bien conduit la transition et confirme que le dialogue national sera tenu le 10 mai. André Kouadmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Loin d'être parfaite, la transition amorcée dans notre pays évolue de manière satisfaisante.
Le général Mahamat Idriss Déby, pour lui, la transition tchadienne est un modèle pour les pays qui ont connu la même situation.
Franchissant des étapes importantes les unes après les autres, notre transition est aujourd'hui non seulement communément saluée, mais aussi régulièrement citée en exemple pour les pays connaissant des contextes politiques similaires en Afrique et même au-delà.
Le deuxième vice-président du parti Les Transformateurs, Dr Sitaki Yombatina Beni, estime que le Tchad est en train d'aller à la dérive.
Nous en sommes arrivés où même le CMT nomme les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux par la bouche. C'est-à-dire l'administration ne respecte même plus la légalité sur laquelle elle est assise. Les libertés fondamentales aujourd'hui sont gérées par un communiqué qui ne fait même pas partie de l'ordonnancement juridique. Même sur la question des droits de l'homme, il y a eu plus de morts. Rien que le 27 avril, il y a eu au moins 17 personnes qui ont été abattues comme ça. Mais à ce jour, personne n'a été arrêté.
Le général Mahamat Idriss Déby se réjouit d'avoir assuré la sécurité des Tchadiens et l'intégrité territoriale.
En dépit des malheureux conflits qui se sont produits dans certaines provinces, la situation sécuritaire du pays est stable et contrôlée. La paix, la quiétude et la sécurité des biens et des personnes au niveau national sont préservées.
Pour le peintre Dunia Togyangar, écrivain panafricaniste, le domaine de la sécurité n'est toujours pas maîtrisé par les autorités de transition.
Tu écoutes 4 radios, les 4 vont parler au moins 30 à 40% des problèmes d'insécurité, de vol à main armée, de tueries par armes de guerre. Pourtant, il y a une commission de désarmement qui a été mise sur pied. Mais jusqu'à aujourd'hui, même le jeudi dernier, j'ai vu à Atron des gens qui ont tenté de voler la moto. Ils ont tiré plus de 10 coups de pistolet sur la population avant d'être maîtrisés. Ont des armes où? Et les gens trouvent les armes où pour tirer sur la population? Surtout le côté insécurité, c'est vraiment un échec puissant.
Le président du Conseil militaire de transition confirme aussi que la date fixée pour l'organisation du dialogue national inclusif sera respectée.
Comme annoncé précédemment, les travaux du dialogue national inclusif commenceront le 10 mai 2022 en N'Djamena. C'est un rendez-vous crucial à l'issue duquel notre cher et beau pays va se doter des institutions pérennes répondant aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien souverain.
Pour Félix Néalbero Madungar, ancien chef de file de l'opposition, aller à cette messe politique le 10 mai dans cette condition est irréaliste.
D'autant plus que le pré-dialogue à droit piétine et certains quittent la table de négociation et les préparatifs même à l'intérieur, on ne connaît pas quels sont les participants à ce dialogue. Donc, nous devons aller doucement. Il ne faudrait pas que ça soit un dialogue de trop pour rien. Donc, naturellement, cette situation impose la prorogation de la transition. Moi, je ne vois pas d'inconvénient.
André Kodouma Dingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le Tchad, un an après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. L'ancien dirigeant tchadien a été tué au front le 20 avril 2021 et aussitôt remplacé par son fils, le général Mahamat Déby Itno. Pour l'opposition, c'est la continuité du système Déby alors que le pouvoir poursuit des pourparlers difficiles avec des groupes politico-militaires au Qatar en prélude au dialogue national prévu le mois prochain. Quel est l'héritage d'Idriss Déby pour le Tchad et la région? La transition menée par son fils est-elle sur les rails pour une remise du pouvoir à un gouvernement élu? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a encore une fois prolongé lundi l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cet exercice de routine a été fait sans la participation des élus de ces deux provinces. Ils ont claqué la porte disant être contre cette 22e prorogation qui n'apporte aucune solution. À Goma, la correspondance de Zanem Netizaidi.
Sortis de la salle en pleine séance plénière, les élus du Nord Kivu et Ituri ont déclaré ne plus jamais participer à une activité parlementaire et entrer avec la prorogation de l'état de siège. Tembos Yotama est un élu de la ville de Butembo dans le Nord Kivu.
Nous avons eu à déclarer par l'entremise des deux présidents du caucus que désormais nous tenons l'opinion nationale internationale à témoin que les élus du Nord Kivu et de l'Ituri ne siégeront que lorsque l'état de siège sera levé. Et donc, toutes les plénières relatives à la prorogation de l'état de siège ne vont plus concerner les élus du Nord Kivu et de l'Ituri.
Pour la société civile, les élus ont les pleins droits d'agir ainsi face à cette mesure qui, depuis près d'une année, n'a apporté aucune solution à l'insécurité. Thomas Dakamwiti, vice-président honoraire.
Vous savez, quand on est élu, député,
On doit savoir s'exprimer et on s'exprime par tous les moyens, mais pour ce qui nous concerne, je pense que ce n'est pas ça la solution. Pour nous, l'état de siège a été proclamé dans une précipitation qui ne dit pas son nom. Puisque pour ce qui nous concerne, nous, à la société civile, l'état de siège devait être précédé par une évaluation de tous les programmes qui se sont succédés.
Le professeur Dadi Saleh, analyste politique, abonde dans le même sens.
Ça ne m'étonne en rien de voir que nous continuons à être en insécurité, parce qu'on n'a pas fait assez. La forme de l'état de siège que nous avons, je ne sais même pas si c'est l'état de siège. Le langage est clair. Donc, vous voulez poursuivre quelque chose qui ne réussit pas sa mission, quelque chose qui ne semble pas jouer vraiment son vrai rôle. Moi, je suis pour l'article 85, où effectivement, on devait voir les gens se mobiliser. S'il le faut, nous laissons des cravates. Nous allons tous nous battre.
Lors de son dernier passage à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a promis de rapporter au chef de l'État toutes les propositions qu'il aura recueillies auprès des communautés pour voir la meilleure réponse à la question de sécurité à l'est du pays.
Nous allons avoir le temps de faire un bilan, de revenir avec un rapport précis, de sorte que l'on puisse orienter sur base des recommandations qui nous ont été données. D'autres ont simplement estimé qu'effectivement il fallait mettre fin à l'état de siège, tandis qu'une autre tendance est de dire que nous devons peut-être nous réorganiser du point de vue opérationnel, tout en gardant l'état de siège. Et donc toutes ces évaluations doivent être mises sur la table pour nous permettre de prendre l'orientation et la bonne en faveur, bien sûr, des populations du Nord.
Pour rappel, le président de la République démocratique du Congo a proclamé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Ituri en mai 2021, dans le but de mettre fin aux violences perpétrées par de multiples groupes armés. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Au Gabon, le gouvernement veut en finir avec les violences à l'école. Ces dernières années, les lycées et collèges du pays sont devenus des terrains de reproduction de toutes sortes d'expériences osées pratiquées par les élèves. Devant cette situation, parler pour se libérer devient la règle pour rompre avec le cercle vicieux des faits divers. Mais l'exercice n'est pas toujours simple pour des jeunes souvent guidés par des comportements de groupe. Le ministère de la Justice et celui de l'Éducation nationale sont en campagne de sensibilisation auprès de la communauté éducative. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Fredlin Kumba a 14 ans. Pour ce jeune élève de la classe de 3e, les premières années de lycée ont été un véritable cauchemar. Pour avoir voulu séparer une bagarre à la sortie des cours, il a été violemment pris à partie.
On m'a poignardé avec un stylo en fer plusieurs fois au niveau des épaules. Je me suis débattu, mais après, en allant me plaindre à l'administration, l'administration a pu mettre main sur l'élève en question et il avait été sévèrement sanctionné et les parents m'ont beaucoup réprimandé par rapport à ça, que lorsque tu es au lycée, c'est pas tout le monde qu'on peut sauver.
Une mise en garde des parents, que l'adolescent n'est pas prêt d'oublier alors que le phénomène s'amplifie d'année en année. Succulent, Maluango, proviseur du lycée Paul Ndjenjengonjou de Libreville.
Le type de violence que nous enregistrons ici, c'est le braquage, les bagarres avec armes blanches et tous ceux qui sont arrêtés, tous les indélicats qui sont arrêtés sont automatiquement traduits en conseil de discipline conformément à nos textes, à notre règlement intérieur.
Coup de poignard par ici, bagarre par là, échanges verbaux traumatisants, il s'agirait d'une vague de violence dont les causes parfois n'ont rien à voir avec l'école. Ntam Messa est psychologue clinicienne.
Nous sommes dans une société de reproduction sociale. Ce que l'enfant a vécu à la maison, il s'essaye avec dans le milieu scolaire. Mais en réalité, l'école en lui-même n'est pas un danger parce que ce sont les individus qui viennent vers l'école et chaque individu apporte ce qu'il aura reçu dans son enfance. Et comme nous, les acteurs, c'est beaucoup plus les adolescents. Et donc, c'est un terrain de prédilection pour s'émouvoir.
Selon les résultats d'une récente enquête nationale, 59% des acteurs du système éducatif, tous groupes confondus, ont été victimes de violences. Le gouvernement a donc décidé de ne plus croiser les bras. Erline Antonella Ndembe, ministre gabonais de la Justice.
Une sensibilisation, une formation même, ne suffit pas. Il faut y mettre le cœur, il faut y mettre la volonté, il faut être convaincu de la chose. Et je pense que tous ici, vous êtes conscients de la gravité des choses.
La campagne en cours a pour but d'intégrer dans la conscience de la communauté éducative la force de la loi. Ismaël Obionze, Libreville pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.